Chapitre 17. Monsieur Mazure, archiviste, qui avait enfin reçu les palmes académiques, regardait le gouvernement avec une indulgente douceur. Comme il lui était nécessaire de s'irriter, il tournait désormais sa colère contre les cléricaux et dénonçait la conspiration des évêques. Ayant rencontré un matin M. Bergeret sur la place Saint-Exupère, il l'avertit du péril clérical. « N'ayant pu, dit-il, renverser la République, les curés veulent s'en emparer. »« C'est l'ambition de tous les partis, répondit M. Bergeret, et l'effet naturel de nos institutions démocratiques, car la démocratie consiste précisément dans la lutte des partis, puisque le peuple est lui-même divisé de sentiments et d'intérêts. » « Mais, reprit M. Mazure, ce qui n'est pas tolérable, c'est que les cléricaux prennent le masque de la liberté pour tromper les électeurs. » À quoi M. Bergeret répliqua « Tous les partis qui se trouvent exclus du gouvernement réclament la liberté parce qu'elle fortifie l'opposition et affaiblit le pouvoir. Pour cette même raison, le parti qui gouverne retranche autant qu'il peut sur la liberté. Et il fait, au nom du peuple souverain, les lois les plus tyranniques. » Car il n'y a point de charte qui garantisse la liberté contre les entreprises de la souveraineté nationale. Le despotisme démocratique n'a point de borne en théorie. Dans le fait, et à ne considérer que le temps présent, je reconnais qu'il est médiocre. On nous a donné les lois scélérates, mais on ne les applique pas. « Monsieur Bergeret, dit l'archiviste, voulez-vous écouter un bon conseil? Vous êtes républicain, ne tirez pas sur vos amis. » Si nous n'y prenons garde, nous retomberons sous le gouvernement des curés. La réaction fait des progrès effrayants. Les blancs sont toujours les blancs, les bleus sont toujours les bleus, comme disait Napoléon. Vous êtes un bleu, monsieur Bergeret. Le parti clérical ne vous pardonne pas d'avoir appelé Jeanne d'Arc une mascotte. Moi-même, j'ai grand-peine à vous en excuser, car Jeanne d'Arc et Danton sont mes deux idoles. « Vous êtes libre penseur. Défendez avec nous la société civile. Unissons-nous. La concentration nous donnera seule la force de vaincre. Il y a un intérêt supérieur à combattre le cléricalisme. »« Je vois surtout à cela un intérêt de parti, répondit M. Bergeret. Et s'il me fallait mettre d'un parti, c'est dans le vôtre forcément que je me rangerais, puisque c'est le seul que je pourrais servir sans trop d'hypocrisie. » Mais, par bonheur, je n'en suis pas réduit à cette extrémité, et ne suis nullement tenté de me rogner l'esprit pour entrer dans un compartiment politique. À vrai dire, je demeure indifférent à vos disputes, parce que j'en sens l'inanité. Ce qui vous distingue des cléricaux est assez peu de choses, au fond. Ils vous succédaient au pouvoir, que la condition des personnes n'en serait pas changée, et c'est la condition des personnes qui se l'importe dans l'État. Les opinions ne sont que des jeux de mots. Vous n'êtes séparés des cléricaux que par des opinions. Vous n'avez pas une morale à opposer à leur morale, pour cette raison qu'il ne coexiste point en France d'un côté une morale religieuse et de l'autre côté une morale civile. Ceux qui voient les choses de la sorte sont trompés par les apparences. Je vais vous le faire entendre en peu de mots. Il y a dans chaque temps des habitudes de vie qui déterminent une manière de penser commune à tous les hommes. Nos idées morales ne sont pas le produit de la réflexion, mais la suite de l'usage. Comme à l'adoption de ces idées sont attachées des notes d'honneur et à leur répudiation des notes d'infamie, personne n'ose les remuer ouvertement. Elles sont admises sans examen par la communauté tout entière, indépendamment des croyances religieuses et des opinions philosophiques, et elles ne sont pas plus fortement soutenues par ceux qui s'astreignent à les mettre en pratique que par ceux qui n'y conforment pas leurs actes. L'origine de ces idées est seule en discussion. Tandis que les esprits qui se disent libres croient retrouver dans la nature les règles de leur conduite, les âmes pieuses tirent de la religion les règles de la leur, et ces règles se trouvent être les mêmes, à peu de choses près. Non parce qu'elles sont universelles, à la fois divines et naturelles, comme on se plaît à le dire, mais au contraire, parce qu'elles sont propres au temps et au lieu, tirées des mêmes habitudes, déduites des mêmes préjugés. Chaque époque a sa morale dominante, qui ne résulte ni de la religion ni de la philosophie, mais de l'habitude, seule force capable de réunir les hommes dans un même sentiment, car tout ce qui est sujet au raisonnement les divise, et l'humanité ne subsiste qu'à la condition de ne point réfléchir sur ce qui est essentiel à son existence. La morale domine les croyances qui sont sujettes à dispute, tandis qu'elle n'est jamais examinée. Et précisément parce que la morale est la somme des préjugés de la communauté, il ne saurait exister deux morales rivales en un même temps et dans un même lieu. Je pourrais illustrer cette vérité d'un grand nombre d'exemples, mais il n'en est pas de plus significatif que celui de l'empereur Julien, dont j'ai naguère quelque peu pratiqué les ouvrages. Julien, qui, d'un cœur si ferme et d'une si grande âme, combattit pour ses dieux. Julien, l'adorateur du soleil, professait toutes les idées morales des chrétiens. Comme eux, il méprisait les plaisirs de la chair, vantait l'efficacité du jeûne qui met l'homme en communication avec la divinité. Comme eux, il soutenait la doctrine de l'expiation, croyait en la souffrance qui purifie, se laissait initier à des mystères qui répondaient, aussi bien que ceux des chrétiens, à un vif désir de pureté, de renoncement et d'amour divin. Enfin, son néopaganisme ressemblait moralement comme un frère au jeune christianisme. Quoi de surprenant à cela? Les deux cultes étaient deux enfants jumeaux de Rome et de l'Orient. Ils répondaient tous deux aux mêmes habitudes humaines, aux mêmes instincts profonds du monde asiatique et latin. Leurs âmes étaient pareilles. Mais par le nom et le langage, ils se distinguaient l'un de l'autre. Cette différence suffit à les rendre mortellement ennemis. Les hommes le plus souvent se querellent pour des mots. C'est pour des mots qu'ils tuent et se font tuer le plus volontiers. Les historiens se demandent avec anxiété ce qu'il serait advenu de la civilisation si, remportant une victoire méritée par sa constance et sa modération, l'empereur philosophe avait vaincu le Galiléen. Ce n'est pas un jeu facile que de refaire l'histoire. Toutefois, il apparaît assez clairement que, dans ce cas, le polythéisme, qui déjà au temps de Julien était ramené à une sorte de monothéisme, aurait subi par la suite les habitudes nouvelles des âmes et pris assez exactement la même figure morale qu'on voit au christianisme. Regardez les grands révolutionnaires et dites s'il en est un seul qui se montra quelque peu original en morale. Robespierre eut toujours sur la vertu les idées des prêtres d'Arras qu'il avait instruits. Vous êtes libre penseur, monsieur Mazure, mais vous pensez que l'homme doit rechercher sur cette planète la plus grande somme de bonheur. Monsieur de Théremondre, qui est catholique, professe que nous sommes ici-bas dans un lieu d'expiation pour acquérir par la souffrance la vie éternelle. Et malgré la contradiction de vos principes, vous avez l'un et l'autre à peu près la même morale, parce que la morale est indépendante des principes. Vous vous moquez du monde, dit monsieur Mazure, et vous me donnez envie de jurer comme un marchand de fourneaux. Les idées religieuses, quand le diable y serait, entrent pour une quantité qui n'est pas négligeable dans la formation des idées morales. Je puis donc dire qu'il y a une morale chrétienne, et que je la réprouve. Cher monsieur, répondit doucement le maître des conférences, il y a autant de morale chrétienne que le christianisme a traversé d'âge et pénétré de contrées. Les religions, comme les caméléons, se colorent des teintes du sol qu'elles parcourent. La morale, unique pour chaque génération, dont elle fait seule l'unité, change sans cesse avec les usages et les coutumes dont elle est la représentation frappante et comme le reflet agrandi sur le mur. En sorte que la morale de ces catholiques actuels, qui vous offusquent, ressemble beaucoup à la vôtre et diffère au contraire excessivement de celle d'un catholique du temps de la Ligue. Je ne parle pas des chrétiens des âges apostoliques, qui, vus de près par M. de Théremondre, lui sembleraient des êtres bien extraordinaires. Soyez juste et judicieux, s'il est possible. En quoi votre morale de libre penseur diffère-t-elle essentiellement, je vous prie, de la morale de ces bonnes gens d'aujourd'hui qui vont à la messe? Ils professent la doctrine de l'expiation, fondement de leur croyance, mais ils s'indignent aussi fort que vous, quand cette doctrine leur est présentée d'une manière frappante par leur propre prêtre. Ils croient que la souffrance est bonne et plaît à Dieu. Les voyez-vous s'asseoir sur des clous? Vous avez proclamé la liberté des cultes. Ils épousent des juives et ne font pas brûler leur beau-père. Quelles idées avez-vous qu'il n'ait pas sur l'union des sexes, sur la famille, sur le mariage, à cela près que vous vous permettez de divorcer sans toutefois le recommander? Il croit qu'on se damne à désirer une femme. Les leurs sont-elles moins décolletées que les vôtres dans les dîners et les soirées? Ont-elles des robes qui font moins voir comment elles sont faites? Et leur souvient-il de ce que Tertullien a dit de l'habit des veuves? Sont-elles voilées et cachent-elles leur chevelure? Ne vous arrangez-vous point de leur façon? Demandez-vous qu'elles aillent nues parce que vous ne croyez pas qu'Ève se couvrit d'une branche de figuier sous la malédiction d'Yahvé? Quelles idées opposez-vous à leurs idées sur la patrie qu'ils vous exhortent à servir et à défendre, tout comme si la leur n'était pas dans le ciel? Sur l'obligation du service militaire à laquelle ils se soumettent, à la réserve d'un seul point de discipline ecclésiastique qu'en fait ils abandonnent, sur la guerre qu'ils iront faire à vos côtés, dès que vous voudrez, bien que leur Dieu leur ait dit « tu ne tueras point ». Êtes-vous libertaire et internationaliste pour vous séparer d'eux en ces endroits importants de la vie? Qu'apportez-vous qui vous soit propre? Il n'y a pas jusqu'au duel qui, pour son élégance, ne soit dans leurs mœurs et dans les vôtres, bien qu'il ne soit ni dans leurs principes, puisque les prêtres et les rois l'ont interdit, ni dans vos principes, car il suppose l'incroyable intervention de Dieu dans nos querelles. N'avez-vous point la même morale relativement à l'organisation du travail, à la propriété privée, au capital, à toute l'économie de la société actuelle dont vous supportez les uns et les autres avec une égale patience les injustices, quand vous n'en souffrez point? Il faudrait que vous fussiez socialiste pour qu'il en allât autrement, et quand vous le serez, sans doute, ils le seront aussi. Les inégalités qui subsistent de l'Ancien Régime, vous les tolérez chaque fois qu'elles sont en votre faveur, et vos adversaires de façade et d'apparence acceptent de leur côté les effets de la Révolution s'il s'agit de recueillir une fortune provenant de quelques vieils acquéreurs de biens nationaux. Ils sont concordataires, vous l'êtes aussi, et la religion même vous unit. Leur foi détermine si peu leurs sentiments qu'ils sont aussi attachés que vous à cette vie qu'ils devraient mépriser et à leurs biens qui sont obstacles à leur salut. Ayant à peu près vos mœurs, ils ont à peu près votre morale. Vous les chicanez sur des points qui n'intéressent que les politiciens et qui ne touchent point la société, justement indifférente entre eux et vous. Fidèles aux mêmes traditions, soumis aux mêmes préjugés, plongés dans les mêmes ténèbres, vous vous entre-dévorez comme des crabes dans un panier. Quand on voit vos combats de rats et de grenouilles, on n'a pas le zèle de laïcisation.